France Inter. Ma révolution de l'amour commence ici, avec vous. Ici et maintenant, hic et nunc. Dans ce monde où la haine se déchaîne de manière tonitruante, l'amour reste notre arme salvatrice. À travers l'étreinte de l'amour, les âmes belles et les flammes rebelles qui brûlent en nous peuvent changer le cours de l'histoire. Élever nos voix devient dès lors un acte militant primordial. Ainsi, nos voix se mêleront pour ne pas être oubliées. Les voix de celles qui ne servent pas la norme, inaudibles dans le tumulte de celles qui haïssent fort. Il faut à la fois être inconsciente ou trop consciente pour continuer à les amplifier sans en avoir peur. C'est que ces voix sont brillantes, colorées, résonantes. Cette révolution, c'est la rotation qu'on opérerait tous autour de l'axe qui nous régit, l'amour. Comme la Terre tourne autour du Soleil, je veux qu'on s'aime plus fort qu'on pourrait se haïr.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Ya Habibi. Ya Habibi. الليل والسماء ونجومه وقمره قمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا.
Bonsoir, bienvenue Jamal Ouazani.
Merci, bonsoir, bonsoir.
Cette chanson qu'on entend là, Af Leila Wa Leila Doum Kaltoum, vous avez eu longtemps un rapport assez complexe, voire ambivalent avec elle. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, bien sûr, parce qu'au début, c'était pas trop in, trop cool d'écouter Oum Kaltoum. Quand on est un jeune adolescent au Maroc, on a grandi à Casablanca avec l'idéal que c'est en France qu'on écoutait les meilleures chansons. Et puis que ça faisait partie des répertoires musicaux de mes parents, mes grands-parents. Mais en fait, ça m'a réenchanté le jour où je l'ai écouté adulte. J'ai recompris les paroles plus. Et puis c'est une des chansons pour moi les plus sublimes qui existent dans le répertoire musical mondial de tout temps, de toute heure. C'est Les Mille et Une Nuits, mais revisité avec L'Astre de l'Orient, Oum Kaltoum, qui est la plus grande diva à ce jour.
Ça raconte donc aussi le chemin que vous avez fait de vous à vous et de vis-à-vis de l'Orient, vis-à-vis de votre arabité avec beaucoup de guillemets.
À 100%, oui, bien sûr. J'ai l'impression vraiment d'avoir pu reconquérir et me réapproprier cette identité-là en me disant qu'en fait, il n'y avait pas de honte à aimer Oum Kaltoum, que c'était une chanson d'amour, que nous aussi, on savait en parler, que nous aussi, on pouvait être digne d'être aimé et qu'on a peut-être d'autres choses à dire que ce qu'on imagine de nous en Occident.
Aujourd'hui, auteur, podcasteur, militant des droits humains, vous avez un guide, une boussole, une direction, celle de l'amour. L'amour comme instrument d'une puissante révolution à venir, mais encore.
Eh bien, l'amour, c'est l'outil révolutionnaire par excellence. Pour moi, c'est ce qui vient nous faire puiser dans ce qui donne la vie, dans ce qui permet aussi de se construire dans l'espoir. L'amour, c'est pas qu'un sentiment, qu'une émotion, c'est vraiment une force salvatrice, encore une fois, et qui permet vraiment de revoir le monde hors de la domination. Et donc c'est évidemment là que je viens placer la force de l'amour, non pas comme quelque chose de très bisounours, mais aussi comme une force, encore une fois, de révolution qui nous permette de réfléchir au-delà.
Changer du paradigme actuel, changer du système actuel, qui est un système forcément de hiérarchie des normes et forcément de rapport de force. Vous, ce que vous proposez, c'est quelque chose de plus égalitaire où on s'aimerait au-delà des différences, des singularités, dans l'acceptation.
Exactement. L'amour, c'est la pluralité. C'est le fait que amour soit amour avec un S. C'est une, comme disait Patrick Chamoiseau, une diversalité de vie. C'est une façon aussi de voir l'amour comme étant anti-domination, anti-patriarcat, anti-validisme, anti-racisme systémique et j'en passe. Et qui permet de se dire qu'en fait, quand le patriarcat est là, l'amour s'évapore. L'amour n'est pas ce qui coïncide avec la violence. L'amour, c'est plutôt ce qui vient nous sauver dans ce qui vient nous sauver, ce qui choisit politiquement la tendresse, ce qui vient aussi réparer nos âmes avec poésie, ce qui vient ne plus rendre sélective notre empathie avec les autres peuples qui sont eux-mêmes opprimés. L'amour, c'est une force révolutionnaire.
C'est ce fil que vous déroulez dans votre dernier livre, Amour, révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane, mais également dans votre toute nouvelle newsletter, Tendresse radicale. Alors, un tendre radical, ça ressemble à quoi ? Prenez ce miroir, s'il vous plaît, Jamal, prenez le temps de vous regarder. Dites-nous, déjà, si vous aimez, vous regardez.
Alors, pas du tout. c'est le pire exercice qu'on puisse me faire faire. Puisque depuis tout jeune, je pense que j'ai été construit, j'ai grandi avec un sentiment de détestation de moi-même, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la dysmorphophobie, vraiment un sentiment de déconnexion, de dissonance entre son reflet dans le miroir et ce qu'on pense être au fond. Et je crois que c'est cette forme de dégoût, elle se construit malheureusement avec des objectifs familiaux, des attentes sociales, des conventions aussi et des codes de beauté à l'occidental. Et c'est vrai que cette déconnexion, j'ai aussi appris à la fracasser avec le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, maintenant, après de multiples années chez ma psy aussi.
ça peut aider.
Ça a aidé beaucoup, avec beaucoup d'amour aussi qui m'a entouré. Je crois que je peux dire que je suis content de mes cheveux, je suis content de ma moustache.
Alors vous avez les cheveux noirs, une moustache noire, les yeux noirs. Vous écrivez que Jamal, vous nous le rappelez dans votre livre, ça veut dire beauté. Et pourtant, petit, vous ne vous trouviez pas beau du tout. Vous lui ressemblez à Brad Pitt. Exact. Ça dit quoi ? Ça veut dire que partout dans le monde, dans cette fameuse hiérarchie des normes, quoi qu'il arrive, celui qui est tout au-dessus de tout le monde, il est forcément blanc, forcément hétéro, forcément blond, il a forcément les yeux bleus.
Oui, parce que ce qu'on désire quand on est enfant à Casablanca, quand on se regarde dans le miroir, c'est qu'on n'est pas Brad Pitt et on n'arrive pas à voir Angelina Jolie et on ne sait pas danser comme Justin Timberlake et on doit désirer à l'époque Madonna, à mon époque plutôt Britney Spears et il n'y a pas ça autour de moi. Et donc, qui suis-je dans tout ça ? Est-ce que je suis attirant ? Est-ce que je suis beau ? Est-ce que l'adolescence va se construire ? Là, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, mes yeux, c'est un peu le miroir de mon âme aujourd'hui. Et j'arrive à trouver ce que je suis vraiment, c'est-à-dire celui qui éclate constamment cette terrible phrase « je suis », puisque je ne suis jamais défini que par une seule chose. Et celui aussi qui est un artiste pluridisciplinaire, extrêmement engagé et qui a envie de voir dans ce reflet effectivement El Jamel, c'est-à-dire la beauté en arabe. Je crois que c'est politique, c'est intimement politique pour moi de me retrouver beau.
C'est donc avec vous qu'on s'envole en marge ce soir, avec vous et votre amour, votre texte poétique militant, un manifeste, une pulsion de vie jaillit, semble-t-il, dans une forme d'urgence, celle de réinjecter de la joie et de l'empathie dans les luttes militantes pour révolutionner nos sociétés en profondeur.
Est-ce que les morceaux d'un corps brisé peuvent se casser ? Est-ce que les miettes d'un cœur peuvent peuvent encore être mangés. Je me demande ce qui se serait vraiment passé si on s'était dit tout le fond de notre pensée. La folie des non-dits et des paroles en l'air, la manie de mentir pour se jeter la pierre. On se fend ça et poli, on ne sait plus quoi faire. J'ai envie de partir.
Scène de Yakuza sur France Inter avec ce Good to Know. Et il est bon, oui, de savoir que notre invité, Jamal Ouazzani, est à la fois français et marocain, queer et musulman, que ça n'a pas été simple tous les jours, mais qu'aujourd'hui ça va un peu, merci, puisqu'il écrit « Je suis français, je suis marocain, pas 50-50, mais 100% les deux, 200% humain. »
France Inter, En Marge.
Ce muezzin, c'est marchand, c'est ce chant qu'on entend là. On est où ? On est quelque part dans votre enfance, je crois. Dites-nous, décrivez-nous, quelles images vous viennent ?
Beaucoup d'images différentes qui me font beaucoup sourire, qui m'émeuvent aussi un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Je suis à Casablanca, donc dans ma ville de cœur, ma ville de naissance, ma ville d'amour. Qui est une ville fabuleusement complexe, qui a beaucoup de travers, mais qui a aussi beaucoup de beauté. Là, on entend Warda, donc Batouane Sbi, qui est vraiment une chanson qui a bercé un peu mon enfance. Encore une fois, là, j'avais pas encore accès à l'amour des nôtres, de ce point de vue-là, et donc aussi de nos musiques à nous. Cette chanson, elle est très sexy, elle est très sensuelle, elle est très amoureuse aussi, et... J'ai des images de ma famille, des femmes de ma famille qui dansent sur ça. J'ai des images des marchands ambulants qui crient à la vente dans les rues, dans les rues de Casablanca.
Vous, vous y êtes né très exactement le 26 septembre 89. Cinq ans plus tard viendra un petit frère et l'enfance sent bon. Bon comme la fleur d'oranger des gâteaux de votre grand-mère, bon comme l'eau de rose qu'on vous pose sur les yeux, bon comme le lys blanc, fleur préférée de votre mère. On sent la finesse, on sent la délicatesse, on se dit que l'enfance chez vous avait quelque chose de très doux. On se trompe ?
Très très doux, très tendre. Beaucoup de beauté, encore une fois beaucoup de bisounourseries, beaucoup de doudou, beaucoup d'amour. En fait, j'avais quelque chose qui clochait presque à être aussi volontairement agréable, amical, bienséant avec tout le monde. Je voulais faire des cadeaux à tout le monde, je voulais faire des câlins à tout le monde. Il y a quelque chose d'assez ingénu, de candide et en même temps que j'essaie de retrouver depuis ce moment-là, aujourd'hui.
Chez vous, les murs sont fins, les portes ne ferment jamais à clé, alors tout circule, alors tout s'entend. Et la voix de Claire Chazal, tous les soirs à 20h, on regarde TF1. Et les versets du Coran, alternativement, parce qu'on zappe sur la chaîne Iqra, parce qu'on navigue facilement entre Orient et Occident, entre Oum Kalthoum et Aznavour. Il n'y a qu'un pont, et on le prend.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu.
C'est votre mère, Sana, qui écoute Aznavour. Quel genre de femme était-elle?
Wow.
Pour vous, dans vos yeux de petit garçon, parce qu'elle est encore là.
Dans mes yeux de petit garçon, je pense que c'était l'idole absolue d'un point de vue qui était évidemment très oedipien à ce moment-là. Je pense que ma mère, c'est toujours, mais un peu moins aujourd'hui, heureusement pour elle, une patriarche, et j'insiste sur le P.
Ouais.
C'était la première inspiration, c'était la première respiration, c'était la première transpiration, c'était l'absolue générosité, à la fois l'amour équivoque, quelqu'un qui donne énormément et qui attend aussi énormément, mais qui n'a pas forcément eu tous les jours la facilité avec laquelle elle a donné, elle n'a pas eu la facilité à recevoir non plus. Mais c'est quelqu'un qui m'a transmis toute ma vie jusqu'à aujourd'hui la tendresse, l'amour, la possibilité pour chaque humain de ressentir infiniment comment l'autre peut aussi souffrir ou ressentir la joie.
De votre père, Chaki, vous diriez quoi ?
De mon père, je dirais qu'il m'a très pudiquement transmis l'hypersensibilité, parce que je pense que c'est pas juste un qualificatif neuroatypique chez moi, je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la force énorme. Je pense que pour lui, ça a toujours été une faiblesse, mais je pense que pour moi, c'est ce qui fait ma plus grande force aujourd'hui. Je pense qu'il m'a transmis le goût pour l'histoire, pour les idées fortes, pour le militantisme, pour le jazz, la mélomanie, voilà, toutes ces grandes histoires aussi qui font de nous des personnes intègre, lui dirait noble, j'aime pas trop ce mot.
Tous deux dirigent un labo pharmaceutique. Ils se sont rencontrés pendant leurs études à Rennes et sont rentrés au pays, fonder une famille avec des souvenirs d'enfance dorés. Et d'ailleurs, vous aussi, vous irez, c'est déjà prévu. Vous êtes l'aîné de tous les petits-enfants. Ça veut dire qu'on attend quoi de vous? Qu'est-ce que vous diriez de cette place qui était la vôtre?
C'était une place qui n'était pas la place d'un petit garçon. C'est la place du fils prodige, parce que j'étais excellent à l'école. C'est vraiment l'histoire d'un petit garçon à qui on a demandé d'être hyper bienséant, hyper sensible, mais aussi extrêmement brillant, qui devait tout savoir faire, qui devait surtout être très beau tout le temps devant tout le monde, et qui était construit pour être le futur gendre idéal. J'étais aussi le seul que mon grand-père, d'après moi, avait connu. Il est mort quand j'avais 2 ans et demi, et du coup, j'étais aussi un enfant roi de ce point de vue-là. Et je crois que ça construit, ça déconstruit une forme de perfection pour moi qui était inatteignable, et qui fait que c'est très difficile de se définir quand tout déçoit l'idéal de perfection.
Gentil, respectueux, poli, bon élève, vous cocherez donc absolument toutes les cases, de toute façon vous n'avez pas le choix. Alors parfois, quand même, vous pouvez souffler avec Aladdin, votre héros préféré. Ou alors non, tenez, ceci, le roi lion, l'histoire de la vie.
Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le dieu soleil, à l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. Tu auras tant de choses à voir pour franchir la frontière du savoir, recueillir l'héritage qui vient du fond des âges, dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire de la vie.
De quoi rêvez-vous quand vous êtes petit garçon?
Je rêve d'être
le roi lion, et d'être
le roi lion, d'être Simba porté par Rafiki.
Ok.
Voilà, au soleil, ça avait l'air vraiment fun. je rêve, oui, en écoutant la chanson, je me dis que mes parents m'ont beaucoup supporté dans leur vie. J'ai une pensée très intime et très honnête pour tous les parents de cette terre qui ont dû subir.
Ils vous remercient. Vraiment, ils vous remercient du fond du cœur.
Voilà. Oui, pendant, je crois que je l'ai vu mille fois, mais je crois que je rêvais d'un ailleurs où ça se terminait bien comme dans un Disney, je pense. Je pense que je me suis reconnu dans ce Disney, pas seulement dans Simba, je pense que j'avais la fougue du petit Simba, mais j'avais aussi le côté un peu intello chiant de Zazu, j'avais le côté vieux, fou, sage, dans un corps de petit garçon de 5 ans de Rafiki, j'avais la joie de vivre de Timon et Pumba, et je crois que j'avais juste envie de, bien sûr, rendre fier la famille, j'avais envie d'un ailleurs.
Alors, dans tout ça, comment est-ce que vous construisez à partir du moment où vous êtes ce petit garçon hypersensible? Vous écrivez déjà, je crois, des poèmes que vous cachez, parce que comme tentez de cacher cette sensibilité-là. Dans la cour de récré, je dirais plutôt avant, dans la préadolescence, vos rapports avec les filles et les garçons, ça se passe comment?
Ça se passe très bien. Ben, j'avais aucune sorte de discrimination entre filles et garçons dans mes interactions. J'aimais tout le monde, je voulais être ami avec tout le monde. Et j'offrais mes Action Man et mes Pog et mes Bi à tout le monde, si bien que j'en avais plus à la fin. Donc j'avais l'impression aussi d'offrir beaucoup l'amour. J'ai l'impression d'avoir
envie d'être très aimé quand même. Hein.
Très aimé aussi, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai grandi, j'ai toujours été délégué de classe de ma maternelle, disons, à ma terminale.
C'est le côté militant déjà.
Ouais, c'est déjà le côté militant qui voulait s'énerver un peu et qui, en fait, effectivement, depuis tout petit, avait une sensibilité un peu bafouée, un peu piétinée, du fait simplement d'aimer la poésie, d'aimer écrire des poèmes que je ne pouvais en fait écrire qu'à ma mère ou ma grand-mère pour leur anniversaire. Pas ailleurs, pas autrement, puisque déjà que j'assistais pas au match de foot, que je regardais pas Automoto le dimanche, c'était compliqué.
Fallait pas exagérer non plus.
Pas exagérer non plus.
Vous grandissez, premier baiser, première petite amie, fin de troisième, un été en Espagne et les cheveux gominés. Vous lisez Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Vous regardez la Star Academy à la télé et Sophia et Saïdi sur vos murs en poster affichés. Dans les enceintes, c'est plutôt Nina Simone, Aretha Franklin, les Destiny's Child. Ces femmes vous parlent d'un ailleurs, d'un autre monde, d'une possibilité. En attendant, à casa, c'est Oba Oba. Casa, bienvenue au lycée Lyautey, le plus grand lycée français au monde où vous passez quelques très belles années avec ce tube-là en boucle et en tête et dans le cœur et dans la peau. Racontez-nous ces années-là, pourquoi elles sont fondatrices pour vous?
Parce que c'était les premières années de rébellion, c'était la révolte, c'était les premières idées politiques, c'était les premières fois où je me disais que je ne comprenais pas pourquoi des hommes noirs devaient être différents de moi en droit, que des femmes devaient être différentes de moi dans mon salaire gagné à la fin de la journée, etc. etc. Et Oba Oba Spirit, c'était vraiment l'esprit Baba Cool, plage, feu de camp, guitare, et ce côté aussi où on va transgresser l'ordre établi. Il y a quelque chose de très puissant, de très effervescent, en fait, dans leur musique. Il y avait vraiment cette dynamique-là de Baba Cool, alors que je venais quand même d'un milieu assez bourgeois. Je trouve que, voilà, Casablanca, il faut y aller. Il faut vraiment y aller pour voir, parce que c'est à la fois, pour moi, ça a été mon cocon et ma prison.
Bac en poche, vous partez en France. L'idée, c'est de faire de grandes études, d'avoir un bon diplôme. Rassurez papa, rassurez maman, oui, mais vous faire plaisir à vous aussi parce que vous vous l'êtes juré. Vous créerez, vous inventerez de nouvelles images, un nouveau monde, et ça, en faisant de la publicité.
Hey!
Respect, Aretha Franklin, une chanson qui résonne tout particulièrement en vous, Jamal Ouazzani. Pourquoi ?
Respect, pour moi, c'est vraiment le moment où j'ai compris qu'il y avait des combats à mener dans la vie. Là, en l'occurrence, avec Aretha Franklin, qui m'a accompagné toute mon existence, littéralement, qui m'a été aussi mis dans les oreilles par mon père. Et depuis, j'écoute ça tous les jours. Respect, pour moi, ça englobe la question de, bien sûr, de l'acceptation, de la dignité humaine. Elle, c'est une femme noire. Il y a une question féministe antiraciste qui venait déjà un peu venir... Il y avait une question qui venait, en tout cas, m'apprendre que j'allais pas rester silencieux face aux discriminations, aux oppressions. Elle m'a aussi appris une forme de... En fait, une nouvelle grammaire de comment militer, de comment parler haut et fort, de pas rester silencieux, là où le silence était partagé par la majorité. Je crois que c'est vraiment une nouvelle syntaxe du courage qu'elle m'a appris. C'était un peu à ma prof de confiance en moi, quoi.
Auteur, militant des droits humains, vous publiez Amour, révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane. Et ce soir, En Marge, vous êtes notre invité.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
Oh, waouh.
C'est pour ça qu'on aime laisser les micros ouverts dans cette émission. C'est juste pour ce « oh wow ». Vous pouvez nous dire pourquoi « oh wow » ? Est-ce que vous pouvez développer, monsieur ?
Oui, je peux développer avec grand plaisir. Purple Rain, c'est l'autre chanson qui m'a accompagné dans mon panthéon de chansons préférées, puisque c'était un peu plus triste quand même, parce que de mes 20 à 30 ans, je pense que j'ai voulu être accompagné par cette chanson de manière un peu incongrue. J'ai été tourmenté beaucoup, j'ai traversé des cycles de dépression assez sévères, et Purple Rain, c'est vraiment une chanson qui transgresse toutes les normes, qui se sépare des cases dans lesquelles on veut nous caser, justement.
Parce que Prince, hein, en lui-même, les transgressait aussi. Toutes. Vous arrivez en France à 17 ans, vous êtes étudiant dans une grande école de commerce, vous êtes très amoureux, grande histoire d'amour à ce moment-là, au début de vos études, mais ça c'est la face A, la face B. Vous la racontez dans votre livre aussi, vous dites que c'est à votre arrivée que vous vous découvrez racisé. Qu'est-ce qu'on vous renvoie de vous en France ?
Ben, que je suis arabe déjà, et que je suis surtout, comme je dis dans le livre, ça devient un substantif, je suis un arabe. Avec tous les stéréotypes qui sont véhiculés avec, c'est-à-dire que avant j'étais juste Jamal, et maintenant, arrivé en France, je suis l'arabe.
Ce qui est terrible, c'est que vous dites que très vite vous mettez à détester ce prénom.
Totalement, j'ai eu un rapport avec mon prénom qui est très complexe. Je pense que ce que j'ai raconté en début d'émission sur la dysmorphophobie n'a pas aidé, puisque Jamal veut dire beauté en arabe, qu'il y a un rapport au prénom qui est déjà un peu délicat, c'est un bras de fer constant, puis c'est un mot qui est écorché constamment, c'est un nom propre qu'on a sali. Constamment, en France, on m'a demandé plusieurs fois de refaire ma carte d'identité, alors que c'est l'administration qui s'est trompée. On se trompe sur mon nom et la prononciation de mon nom, littéralement, 8 fois par jour. Donc, il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'interchangeabilité des prénoms, comme je l'appelle dans mon livre, c'est-à-dire le fait que ça aurait été beaucoup plus simple que je m'appelle Karim ou Mohamed. Ça aurait été beaucoup plus prégnant par rapport à mon identité. Et c'est ça qui vient perturber l'ordre établi. C'est que, en fait, mon prénom, il est mon premier traître, mais aujourd'hui, c'est mon premier allié.
Politiquement, autour de vous, le contexte se tend, cette tension-là, elle se ressent très profondément pour vous dans l'espace public. Comment vous vous sentez à partir du moment où, je parle de Paris, là, quand vous mettez le pied dehors, quoi ?
Aujourd'hui, à Paris,
À l'époque, je parle vraiment de vos premières années.
Dans mes premières années à Paris, je n'avais aucune notion du racisme que je pouvais subir, puisque c'était un truc de faible.
Qu'est-ce qui est un truc de faible ?
Ce qui est un truc de faible, c'est le fait de dire qu'on a subi du racisme. Okay. C'était un parcours de victimisation qu'on m'a interdit, notamment dans mes cercles amicaux, mais aussi surtout dans mes cercles familiaux. On m'a dit que si tu vas là-bas, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de raison de dire que à la cantine, ils t'ont mis des lardons dans ta salade, que on pouvait servir que du porc, que on me mettait des petits mots sous ma porte au réfectoire où j'habitais pour me dire « rentre chez toi ». Toutes ces choses-là n'étaient pas censées être existantes ou juste des malencontreuses évidences du quotidien, notamment quand on me refusait mes appartements et qu'on me disait « je ne vous donnerai pas ça à vous parce que dans votre pays, vous êtes des animaux ». Il y a quelque chose de très très violent qui se passe à ce moment-là.
Dissonance cognitive parce que vous le vivez, mais bien vous sûr. Ne le nommez pas. Résultat, vous partez loin et longtemps, jusqu'à vos 30 ans, vous travaillerez bel et bien dans la publicité, mais aux quatre coins du monde, loin de chez vous, partout, loin de vous-même peut-être. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, dans ces 10 années-là, de votre héritage, de vos racines, peut-être même de votre foi ?
Bah pareil, je les mets en suspens, je les mets en parenthèse. Il y a vraiment une veille de la foi, oui, de la spiritualité, oui, même si je continue à faire Ramadan, que je crois, j'ai toujours cru en Dieu, etc. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'identité qui était acquitté et de la façon la plus radicale possible, puisqu'il fallait couper avec ce qui me reliait à la faiblesse, ce qui me reliait à ce qui n'était pas justement enviable.
Ouais.
Et je crois que quand j'ai passé là les 4 ans que j'ai passé de ma vie à Shanghai, c'était magnifique, j'avais vraiment une liberté totale, j'étais à l'autre bout de la terre justement, j'étais aussi à l'abri des regards, j'étais dans ma spiritualité comme je le voulais, je parlais 10 langues, mais il y avait une langue que je parlais pas, c'était ma langue à moi, c'est-à-dire je suis resté mutique dans la langue de l'identité que je voulais vraiment porter.
Sans même que vous en aperceviez, c'est la colère qui grimpe en vous, colère ô combien légitime, écrivez-vous. Comment tendre l'autre joue alors qu'on sabre nos espoirs, qu'on éventre nos optimismes et qu'on éviscère nos ventres pleins de papillons ? Comme beaucoup de Marocains, le vent de la révolte, vous le sentez pousser très fort en mars 2012 après le suicide d'Amina Filali. Enceinte à la suite d'un viol, on l'a empêchée d'avorter et on a voulu la marier de force à celui qui l'avait violée. Le 17 mars 2012, les Marocains sont dans la rue, l'agence AP Film et Fouzia Assouli, présidente d'honneur de la Ligue démocratique pour les droits de la femme, est interviewée.
C'est scandaleux ce que nous avons vécu. On en a marre. Il faut changer cette loi. Il faut revoir le code pénal.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, à ce moment-là ?
Une profonde colère, certes, mais je crois que j'ai été vraiment somatiquement dans mon corps. J'ai été retourné complètement. J'ai été chamboulé. Ça m'a vraiment éviscéré. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de répugnant à me dire que quelqu'un avait pu déjà vivre l'horreur alors que c'était une jeune fille,
14 ans,
mineure, 14 ans et demi. Elle arrive à 15 ans avec du coup une grossesse qui a été poursuivie parce que c'était interdit, et c'est toujours interdit aujourd'hui d'avorter au Maroc. Et même pour des raisons donc, de viol, là la question était déjà très très difficile. Mais en plus de devoir se marier avec son agresseur, c'est devenu pour moi la chose la plus terrible qui pouvait exister. Mmh. Et donc là, j'ai eu un espèce d'éveil identitaire, puisque là, je me suis retrouvé, j'étais à Dubaï à l'époque, j'étais au top de ma life. je vivais un best life, privilégié, à Dubaï, chez Publicis, tout pour mon bon CV, etc. Et j'ai commencé à voir, ça m'a gratté dans l'oreille de me dire que j'avais écouté ça et que je pouvais y rester indifférent, comme littéralement tous ceux qui m'entouraient. Et donc là, ça devenait plutôt impossible de rester indifférent. Je crois que c'est ce moment-là où j'ai choisi de l'ouvrir beaucoup plus, de risquer de perdre mes groupes d'amis, de risquer aussi d'être le mec chiant en soirée. Et ça a continué année après année jusqu'au moment où j'ai vraiment décidé en 2019 de tout envoyer balader. J'étais à New York à ce moment-là, pareil, dans une belle vie. Et
c'est aussi à cette période-là que vous remettez à lire le Coran. Pourquoi ?
Tout à fait. Moi, je dis souvent que je suis redevenu musulman le jour où j'ai, pour la première fois de ma vie, lu le Coran. Puisque, en fait, on ne nous apprend pas à le lire. On nous apprend à devoir pratiquer, l'apprendre par cœur, le réciter avec les bonnes tonalités, etc. Le respecter de ce point de vue-là. Moi, je me suis enfermé dans ma chambre à New York pour la première fois de ma vie où j'ai décidé de ne plus faire Ramadan. Et c'est pendant ce mois-là où je me suis enfermé, littéralement comme on s'enferme pour mater un porno, pour lire le Coran par moi-même, sans regard extérieur. Mmh. Et c'est là où j'ai découvert tout ce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait jamais décrit et tout ce qu'il y avait décrit qu'on m'avait jamais dit. C'est là où je me suis dit, ah d'accord, donc on m'a menti.
Sur la sexualité, sur la virilité,
sur le racisme, sur la question de la femme, surtout, ouais. Sur la question de...
Les choses qu'on vous a vendues comme émanant du Coran, qui en fait...
Évidemment, toutes ces choses qui émanent de la pensée unique, totalitaire de la culture, et non pas du cultuel, ces choses qui ont été patriarcalisées avec le temps dans l'interprétation. Mmh. Et donc moi, l'idée, c'était vraiment de relire ça avec un point de vue féministe, et moi je dis toujours... J'ai pas voulu apprendre le Coran par cœur, j'ai voulu le lire par cœur.
On est au mois de février 2020. La neige est tombée sur New York et là vous partez sans vous retourner. Un aller simple pour Paris, les retrouvailles avec vous-même, c'est là qu'elles vont commencer.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon.
Parce que donc c'est aussi le moment où vous interrogez votre masculinité. Vous arrivez au cœur de vous-même et de la façon dont on vous a construit, Jamal.
Tout à fait, j'ai remis en question la masculinité qui me dégoûtait de plus en plus. J'étais pas du tout fier d'être un homme à ce moment-là, alors que je suis un homme cisgenre, je l'ai toujours été, je me suis toujours senti homme. J'ai toujours répondu aussi au code de la masculinité. J'ai été complice du patriarcat aussi longtemps et je pense que je serai encore, malgré moi, beaucoup dans ma vie sans le vouloir, parce qu'on est tous infestés de cette dimension patriarcale, de ce virus terrible qui nous touche toutes et tous.
Vous voulez dire dominateur, vous voulez dire cette idée de ces privilèges, vous voulez dire...
Des privilèges des hommes, en fait, dont on se rend peu compte et qu'on n'a pas envie de mettre sur le devant de la scène, puisque ça voudrait dire qu'on a des privilèges, ça voudrait dire qu'on pourrait être amené à les perdre et que l'égalité serait souhaitable.
Oh mon Dieu, non! Mais jamais
surtout
de la vie!
Pas. Quelle horreur!
Mais enfin, vous êtes un grand malade! C'est à ce moment-là aussi que vous saisissez de vous-même, intimement, de vos désirs, de vos amours, là, que vous les vivez. Vous avez vos premières aventures avec des garçons. Ça change quoi pour vous?
Toute ma vie, puisque du coup, c'est très compliqué de pouvoir le vivre, même en parler aujourd'hui, c'est pas simple, puisque ça vient pas... conjuguer des identités entre elles, alors que pour moi, en fait, elles le sont intimement.
De fait, oui.
De fait, et je crois qu'on ne décide pas clairement de sa foi et de sa sexualité. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inexplicable et qui doit rester inexpliqué pour que ce soit aussi beau. Je pense qu'elles se conjuguent très bien, qu'il n'y a aucun oxymore entre la foi et la sexualité, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la foi aussi, et que je pense qu'il n'y a rien de plus intime, et que en cela, puisque c'est intime, c'est fondamentalement politique de s'affirmer en tant que tel.
Changement de peau, changement de boulot, la mue est complète et Jeans peut naître. Vous créez le premier podcast sur la sexualité des personnes noires et arabes et vous y recevez Assa Traoré, Camélia Jordana, Leïla Slimani ou encore Rokhaya Diallo.
Bonjour à tous, je suis toujours Jamel, la voix derrière Jeans. On va continuer à parler de genre, de sexualité, au pluriel, et de féminisme pour les personnes arabes et ou musulmanes. Comme vous le savez sûrement, Rokhaya Diallo est une journaliste française, autrice et réalisatrice, reconnue pour son travail en faveur de l'égalité raciale, de genre et religieuse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans.
Salut, merci de nous inviter.
Il y avait là aussi une urgence à parler de l'intimité des personnes racisées, peut-être même entre personnes racisées.
Bien sûr. Alors déjà, j'avais l'impression que j'allais t'interviewer toi maintenant, Julia. Non, en fait, j'avais vraiment plus du tout envie de faire genre. Mmh. C'est-à-dire que je ne voulais plus déjà jouer au genre masculin comme on me l'avait imposé. Je voulais être un homme, mais autrement. Je voulais désintoxiquer la masculinité. Mais je voulais aussi qu'on parle de sexualité, de sexe. Jinn, ça veut dire sexe en arabe. Mmh. Et je voulais mettre dans toutes les oreilles, de la même façon que j'ai voulu mettre amour sous tous les yeux. Jinn, c'était un moment pour moi extrêmement fondateur, puisque c'était évidemment thérapeutique, mais c'était aussi ce qui m'a permis de montrer au quotidien et à toutes les personnes de manière gratuite et accessible sur toutes les plateformes, toutes les vérités qui ne sont jamais sorties. Et c'est pour ça qu'on m'a haï, mais c'est aussi pour ça qu'il y avait beaucoup d'amour.
Dans votre livre, vous écrivez « Je crois que l'intime est éminemment politique et que dès lors, l'acte politique par excellence, celui que j'entends mener, c'est se renforcer personnellement, célébrer sa différence comme une richesse, caresser son identité parce qu'elle est précieuse et faire circuler l'amour avec joie. » Jamal Ouazzani, vous restez avec nous, on a encore quelques boucles à faire avec vous. En marge à la technique, Alex Olariwajou, Otinois, à la réalisation, Alicia Vullo, chargée de programmation, Ophélie Vivier et ça c'est Drake sur France Inter.
Who's calling that shit? Who's calling that shit? Sound 2025. Who's calling that shit?
Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Is it Ebony? Was it Danny? Is it Marty? Where's the function?
Where the fuck the function? Where the fuck the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fine ass home, and that's real. Stop teasing me, stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me, leaving me. We got sticks in the club illegally. Got the whole six side, they believe in me. We got members east of the DVP. We got members west on the 401. We got a lock on the game, but there's more to come. You gotta pop that ass till the morning come. You want shots for the girls, then order some.
Who's calling it? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who, who? Who, who? Who, who?
Hey. Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Is it Ashley? Was it Danny? Is it Party? Where's the function?
Where the fuck the function? Where the fuck the function?
Drake, Nokia, comme tous les samedis, c'est Djoubaka qui signe notre programmation musicale. Vous trouverez toutes les références des morceaux que vous avez entendus dans cette émission sur franceinter.fr. Pour le podcast, c'est l'appli Radio France.
En marge. Sur France Inter.
Il y a dans votre livre, Jamal Ouazzani, deux pôles qui reviennent souvent, celui de la colère et celui de la joie. Les deux sont nécessaires ?
Les deux sont catégoriquement, de manière péremptoire, nécessaires pour la lutte militante, pour la vie aussi. Pour moi, la colère, c'est toujours légitime quand il s'agit de combattre l'oppression, la colonisation, ce qui se passe en l'occurrence maintenant en Palestine, ce qui se passe au Congo, au Soudan, mais aussi localement sur la question des féminicides, trop encore quotidiens, des violences sexistes et sexuelles, mais aussi des racismes, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la colère qui est nécessaire, puisqu'elle vient pour moi représenter la forme la plus éclatante de l'amour. Puisque la colère, c'est ce qui vous fait dire que c'est pas normal et que ça ne doit pas continuer comme ça et qu'on doit crier. Il faut pouvoir crier. Pour moi, la colère, c'est le premier élan d'action d'un amour pour l'humanité.
Il y a aussi question de paix, beaucoup dans votre livre, la paix que vous semblez avoir trouvée et qui pourrait avoir ce son-là, Nina Simone, pour l'éternité.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
Quel effet vous fait cette chanson-là, Jamal?
Un effet de joie pour l'éternité. C'est Nina Simone, c'est d'une poésie immense. C'est une de mes artistes préférées de tout temps, de toute heure, toute géographie confondue. C'est une personne qui m'a aussi enseigné la bataille des Black Feminism aussi, au-delà de Bell Hooks, au-delà de Audre Lorde, des poétesses, de Angela Davis. J'ai compris en fait les révolutions naissantes grâce à l'art, grâce à la création artistique, notamment avec Nina Simone, puisque on voit dans ses textes engagés à quel point elle nous fait rêver un ailleurs, une façon aussi de s'émanciper des carcans patriarcaux, des racismes systémiques. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très fort dans ce qu'elle dit. And I'm feeling good, bien sûr. It's a new dawn. C'est une nouvelle journée. And I'm feeling good.
Donc il y a cette paix, il y a cette joie, il y a cette colère. Et c'est avec ces nuance-là qu'on va se quitter bientôt, Jamal Ouazzani, mais jamais sans quoi. Quel est l'objet qui vous accompagne toujours, celui qui vous raconte le mieux? Ah, on va l'entendre, là, faites-le bouger un petit peu au micro.
Alors, avec plaisir.
Ça brille.
Ça brille.
Ça scintille, il y a du vert, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du rouge, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un objet qui maintenant m'accompagne beaucoup dans mes représentations poétiques depuis presque 6 mois, même un peu plus. C'est un chapelet, un rosaire, un chapelet, ce qu'on appelle sabih en arabe, qui est directement hérité de ma grand-mère, la Rahimha, qui est morte en septembre dernier. Bah, déjà, il porte les couleurs de la Palestine, ça donne vraiment quelque chose de résonnant avec mon combat quotidien pour la libération du peuple palestinien et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Et il y a quelque chose aussi de très fort, puisque évidemment c'est un objet, c'est une forme de talisman musulman en fait, puisque c'est comme ça aussi qu'on prie chez nous, et je trouve que ça me relie beaucoup de façon belle à mes racines, à ma foi, mais aussi à ma résistance.
En marge, c'est terminé pour ce soir, Jamal Ouazzani. Merci d'être venu nous raconter votre histoire. Jeans, c'est le nom de votre podcast. Tendresse radicale, celui de votre newsletter. Et Révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane, c'est le titre de votre essai édité chez Le Duc. Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.
Merci Julia.